Frédéric de Saint-Etienne. D'Ivoire Daniel, j'ai écouté ton émission. Eh ben, très bien, chapeau. Autant de oui, autant de non. Bon, moi, par contre, je serais tenté de dire à tout le monde, ben, c'est bien de se mobiliser pour le oui, pour le non, mais surtout, il faudrait se mobiliser pour aller voter et que chacun s'exprime. Quand on voit que Maastricht, comme il est passé, 49-51, c'était un peu nul, et ce qui était encore plus nul, c'était de voir le taux d'abstention. Alors, c'est bien, tout le monde, mobilisons-nous, allons voter, oui ou non, mais allons voter.
France bénie, oui, oui, autrement dit France 2, a une singulière conception de l'arithmétique. Ce soir, il nous affirme qu'en Espagne, 3 Espagnols sur 4 ont approuvé le traité constitutionnel. Revoyons les chiffres ensemble, 58% d'abstention, ce qui veut dire qu'il reste 42% de rescapés. Sur ces 42%, 76% ont voté pour le oui, ce qui représente 31,9%. Selon France 2, France bénie, oui, oui, 31,9%, cela représente 3 Espagnols sur 4. Bravo, on attend vivement la mise en place du socle commun de Monsieur Fillon.
Bonjour à tous, il se trouve que j'ai une fille qui vit en Allemagne depuis une dizaine d'années. Elle est professeure de français dans une faculté. Elle donne aussi des cours de français à des ingénieurs de l'aéronautique qui viennent en France quelques mois pour travailler, notamment pour Airbus. Eh bien, que disent ces ingénieurs? Ils disent, nous espérons que le non va l'emporter en France, car nous ne voulons pas de cette Europe. Vous avez de la chance en France de pouvoir vous exprimer. Nous, on ne nous a pas donné la parole, de peur que le non l'emporte chez nous aussi. Voilà ce que disent des intellectuels qui ne sont pas d'extrême droite, qui ne sont pas europhobes, mais qui réfléchissent, qui regardent autour d'eux et qui disent « ça suffit ». Salut.
Salut Daniel, Michel Denis, vieux militant depuis des années, qui vient sonner le tocsin puisqu'il paraît que tu manques de partisans du oui. Alors d'abord, première question, pourquoi les leaders du non ne parlent jamais du risque évident de renforcer l'ultralibéralisme par leur victoire? Renforcement pour deux raisons très simples. Une, le gouvernement américain exploitera à fond la division de l'Europe. Est-ce que Besancenot va téléphoner à Bush et à Condoleezza Rice en leur disant « Bush, vous bougez pas tant qu'on s'est pas réorganisé ensemble ?» Deuxième raison, les accusations de trahison portées contre les partisans de gauche du oui sont si graves qu'elles risquent d'attiser le sectarisme et diviser la gauche française pour très longtemps. C'est un boulevard ouvert pour Sarkozy qui est beaucoup plus libéral et pro-américain que Chirac. On va pas vers une catastrophe généralisée. La bourse, merci, se va très bien depuis la montée des sondages en faveur du non. Mais on va vers un marasme économique et politique dont les seules victimes seront les travailleurs et les chômeurs. Pour Fabius, Mélenchon et Manmeli qui garderont leur siège en récupérant les voix d'extrême-gauche, il n'y a pas grand risque. Dire que les fameuses élites sont toutes pour le oui, ça prête plutôt à rire. Réveillez-vous, camarades, avant de servir les petites ambitions de politicards bien franchouillards. Et merci, à bientôt.
Salut Daniel, c'est Pierre de Créteil. Alors, je ris comme une baleine. Je viens de voir une affiche pour le oui. En bas de l'affiche, quelqu'un avait collé une feuille de papier blanc, format papier à lettres, avec une flèche tournée vers le bas. Et il a rajouté avec un gros stylo feutre bien lisible, « Oui pour en chier ». Oui pour en chier, je trouve ça génial. On pourrait trouver d'autres formules, oui au chômage, oui au matraquage des radios et des télés, oui aux délocalisations. Alors, voilà, je lance l'idée d'un grand concours national jusqu'au référendum, avec chaque jour quelque chose de nouveau. On s'amuserait un peu, ça changerait de l'ordinaire. On pourrait prendre des photos pour faire un album vendu au profit des chômeurs, par exemple. Allez, chiche! Soyez créatifs. Oui pour en chier. Oui pour en chier. Oui pour en chier. Salut.
Pourquoi vais-je voter non? Eh bien, quand j'écoute les discours des oui-ouistes et que j'écoute ceux des partisans du non, je ne découvre pas les mêmes mots dans leur bouche. Dans la bouche de ceux qui s'époumonnent pour le oui, je n'entends qu'arrogance, condescendance. Pour eux, les partisans du non sont des imbéciles qui mélangent tout et des gens remplis d'aigreur. En fait, le oui attaque plutôt qu'il ne défend une position, celle du libéralisme à tout craint. Mais bon sang, qu'ils assument cela, chacun ses choix. Quand j'écoute ceux du non, j'entends de jolis mots, tels que solidarité, égalité, fraternité, entre le Nord et le Sud notamment. Quand je vois une femme, comme Marie-Georges Buffet, qui parle avec ses tripes, Quand je vois le mouvement des alternatifs qui prône l'égalité homme-femme, les échanges nord-sud, quand je vois José Bové qui milite pour une agriculture biologique, soucieuse de l'homme et de la nature, qui milite pour améliorer les conditions de vie des paysans du sud, j'ai farouchement envie de les épauler. Les idées qu'ils véhiculent sont miennes. C'est pour toutes ces idées qui ont à voir avec l'Europe que j'ai envie de construire que je voterai non. Partisan du oui, je ne suis ni une réac, ni une souverainiste, ni une égoïste. Je suis une femme du monde qui rêve de fraternité, de respect et de liberté d'expression. Christelle du Morbihan, merci pour ce droit de parole.
Patrick, j'ai 59 ans, je suis technico-commercial et je viens crier mon vote pour le non. À 59 ans, là, je dois travailler de plus en plus, je suis de plus en plus dépouillé. Je suis dans l'industrie du bois, qui est une industrie qui est en train de mourir, comme le cuir et maintenant le textile. 25 scieries simplement en Aquitaine, c'est-à-dire département des Landes, de la Gironde et de la Dordogne. 25 scieries ont déposé le bilan en 2003-2004. C'est réduit à la peau de chagrin. Je vois tous les jours, toutes les semaines, des bûcherons portugais et espagnols. Et surtout maintenant les portugais, parce que les espagnols se sont un petit peu mis au niveau de l'Europe. Il y en a encore pas mal. Ils sont payés moitié prix que les bûcherons français. Le bois est acheté avec les subventions européennes beaucoup plus cher que ne peuvent acheter les pétitions français, qui ne peuvent plus se payer de bûcherons, puisque voilà, il faudrait passer par le biais des sociétés portugaises. Et puis ça revient ici en planche ou en lambris ou en parquet devant notre porte, devant la porte du scieur, qui n'a plus qu'à déposer le bilan, moins cher que tout ce qu'il peut faire. Voilà. Et bon, je ne veux pas faire un cours d'économie, je suis qu'un petit autodidacte qui évolue tous les jours sur le terrain et qui voit des choses. Je vois ce que je vois, j'entends ce que j'entends, et la directive Bolkestein, ça fait longtemps qu'elle fonctionne. Alors non, vive le non, vive la République, vive notre pays, vive la France, et pour qu'on retrouve nos droits, ou qu'on essaye de retrouver une partie de nos droits, ou qu'on ne perde pas plus que tout ce qu'on a déjà perdu, votez non, je vous en supplie.
Voilà, des messages, un bouquet de messages sur l'euro, pondeur de la basse, j'y suis. Et énormément de messages. Pardon d'abord à tous ceux qu'on ne pourra jamais passer d'ici à la fin de la semaine. On essaye avec Christophe de vous faire entendre les messages qui nous semblent en toute subjectivité. Alors là, vraiment, les plus significatifs de ce qui se passe en ce moment, de ce qui se dit, du débat passionné qui nous anime et qui nous agite, nous autres Français, visiblement, pas seulement les Français. Hein, ça bouge de tous les côtés. On voit les résultats des élections en Allemagne. On sait que ça bouge un peu partout. Et que cette passion démocratique, eh bien, s'étend à travers l'Europe. Ce dernier message de cet auditeur qui travaille dans le bois et qui est assez désespéré, nous ouvre là l'émission d'aujourd'hui avec François Ruffin. On s'est posé une question toute bête, c'est pourquoi qu'on va voter oui, pourquoi qu'on va voter non. Alors bien sûr les réponses elles sont évidentes parce que on a écouté les uns et les autres, on a lu ceci, cela, mais il y a aussi d'autres raisons toutes simples, c'est nos vies quotidiennes, chacun voit l'Europe à sa porte. Et on commence aujourd'hui une balade dans la France d'en bas, comme dit l'autre, la France profonde, celle où habite cet auditeur, par exemple dans les Landes. On n'ira pas dans les Landes, on ira plutôt dans le Nord d'ailleurs, autour d'un petit village où habite un certain Bolkestein. Voilà, auparavant, j'ai autre chose à vous dire, une bonne nouvelle, c'est demain, en attendant l'apocalypse. Vous savez que dimanche soir, en principe, la Wehrmacht rentre dans Paris par un côté et l'armée rouge rentre par l'autre. Si vous avez, malheureux français, la mauvaise idée de voter non, c'est la catastrophe, c'est l'apocalypse. Alors que faire en attendant? Eh bien, demain soir, à 20h, à Paris, au théâtre de Jazet, qui est place de la République, exactement au 41 boulevard du Temple, au métro République, dès 20h, nous allons faire le procès de Nicolas Sarkozy. Et oui, l'équipe de là-bas, si j'y suis, mais pas seulement, d'autres que vous aviez entendus ou rencontrés, ou vus si vous étiez venu nous voir, lors du précédent procès que nous avions fait à un certain Jacques Chirac, eh bien on va tous se retrouver demain soir pour le procès de Nicolas Sarkozy. On risque d'ici là d'être saisi par un scoop, mais c'est vrai en plus, tout à fait surprenant, tenez-vous à l'écoute. Donc c'est demain à 20h au théâtre de Jazet, le procès de Jacques Chirac, avec des musiciens, avec des dessinateurs, avec toute une fine équipe. Voilà, en route pour le beau pays du docteur Bolkestein.
Docteur Bolkestein.
Oui, Igor.
Je vous apporte le cerveau de Robert Schumann, maître.
Parfait, Igor. Nous allons le mettre dans le crâne d'Emmanuel.
Salut, c'est Daniel Mermet, la base du J'y suis avec François Ruffin.
Docteur Bolkestein.
Flight number 2, arriving from New York.
Donc là, on se trouve à Ramouzi, donc c'est un village de l'Avesnois, en compagnie de Monsieur Carpentier, qui est le maire de Ramouzi. Et juste en face de sa véranda, il y a une maison. C'est la maison qu'on aperçoit au fond, là-bas.
Oui, qui est à peu près à 300 mètres d'ici, c'est la maison de Monsieur Bolkestein.
Et vous l'avez déjà rencontré fréquemment, Monsieur Bolkestein ?
Je l'ai croisé plusieurs fois dans le village, mais dire le rencontrer et avoir des grandes discussions avec, non, jamais.
Et vous étiez, bon, vous avez entendu sa déclaration sur les plombiers absents de Ramouzi.
Oui, j'ai entendu ça. Ça m'a un peu vexé, dirons-nous, parce que bon. Qu'ils prennent un exemple, je suis d'accord. Qu'ils disent qu'il n'y ait pas de plombier dans l'Avesnois, alors qu'on est déjà un peu défavorisé par rapport au reste du département, ça veut dire que vraiment l'Avesnois, c'est devenu la brousse, c'est devenu le deuxième Cantal de France. C'est une chose qui m'a pas du tout plu.
Ce que vous dites, ça va pas tellement plaire aux gens du Cantal.
Ben, il faut être réaliste quand même. On sait très bien que quand on va dans le Cantal, ou alors on va sur le Larzac, si vous voulez, c'est pareil. Alors je reviens à Monsieur Bocassien qui dit qu'il avait des difficultés à trouver des plombiers. Bon, il descend chez lui, vous voyez sa maison, vous tournez le visage de l'autre côté, vous apercevez le village, et à l'entrée du village, il y a deux plombiers qui sont installés, enfin qui sont pas installés, mais qui habitent à Ramouzi.
Il y a deux plombiers à Ramouzi.
Oui. Il y a deux plombiers, et donc depuis ce temps-là, j'ai fait un petit recensement. Et sur une centaine d'habitations, il y a 12 habitations qui sont occupées par des artisans commerçants.
À Ramouzi. 12 sur 100.
Donc ça fait 12% des maisons d'habitation de Ramouzi qui sont occupées par de l'artisanat.
Donc c'est surpeuplé en artisans presque, Ramouzi.
Mais quand on dit que l'artisanat c'est la plus grande entreprise de France, ça se concrétise tout à fait ici à Ramouzi, quoi.
Ah, il avait fait un tabac, Fritz Bolkestein, 72 ans, cet ex-commissaire européen, en annonçant que de toutes les difficultés qu'il avait, lui qui habite dans ce petit village depuis bien longtemps, qui est là sa résidence secondaire, en disant que c'était toute une affaire pour trouver un plombier et qu'il ne serait pas du tout fâché de voir arriver un plombier polonais. Vous vous souvenez de cette histoire de plombier qui a quand même pas mal plombé le oui et qui a éclairé cette campagne et qui continue d'éclairer évidemment cette campagne. On a dit mais pas du tout cette directive sur les services, mais pas du tout, oui on va enlever ça, etc. C'est pas si sûr. Qu'est-ce qui nous fait dire que c'est pas si sûr? Eh bien parce que nous voilà dans la France profonde, nous voilà dans ce petit village avec le maire, avec les habitants. On va se balader dans le coin, mais pas loin, à faire quelques kilomètres, parler un petit peu avec ces Français profonds, comme on disait jadis, cette France silencieuse, comme on disait aussi, les Vaux, les Français sont des Vaux, la France d'en bas. C'est parce que quand on se dit pourquoi qu'on va voter, hein, pourquoi qu'on va voter oui, pourquoi qu'on va voter non. Alors on se dit bon ben voilà, c'est parce que c'est parce que Chirac a parlé, parce que Lionel Jospin a parlé, parce que Beauvais a parlé, parce que Tony Negri a pris une décision formidable. Donc il faut voilà, je vais voter comme ça, comme si à cause des médias, à cause des sondages. Et c'est vrai que c'est ainsi que se fabriquent nos opinions et que se construisent nos décisions. Mais il y a tout simplement la vie. Chacun voit midi à sa porte, voit l'Europe à sa porte, et il y a ceux à qui ça rapporte, ou à ceux à qui ça ne pose aucun problème, et ils sont un certain nombre dans notre pays et dans notre Europe, et puis il y a tous ceux qui sont touchés depuis longtemps, qui risquent d'être touchés, qui sont menacés par ces ouvertures de marché, selon la formule le plus fréquemment utilisée. Et qu'on soupçonne aujourd'hui d'être des xénophobes, on les soupçonne de repli, de frilosité, parce que évidemment il manquerait de solidarité. Mais lorsqu'on est bûcheron dans les Landes, est-ce que c'est les bûcherons des Landes qui doivent faire les frais de la solidarité? Est-ce que c'est les plombiers du Nord qui doivent faire les frais de cette solidarité? Donc ce qu'on essaye de faire aujourd'hui avec François Ruffin, c'est voilà, de voir un petit peu comment disons l'Europe à sa porte.
Je m'appelle sans pareil et je te le dis, c'est moi qui lève et couche le soleil qui fait et défait les rois.
Moi je m'appelle Jésus Sicre et je circule en tout lieu. Ma maman c'était Marie, mon papa c'est le bon Dieu.
Je suis le début du monde et je vivrai jusqu'à sa fin. Je couche avec la Joconde, je suis pote avec Jospin.
Si tu mets pas de capote quand tu couches avec Jospin, au moins garde la culotte, il pourra pas aller très loin.
Dès le début t'attaques bas, ce que tu dis n'est pas très beau. Heureusement que je suis là pour relever le niveau.
Je suis pas garde-barrière pour les passages à niveau. Je suis qu'un simple trouvère qui s'amuse avec les mots.
Tes jeux de mots sont sans succès, c'est la forme sans le fond. Le sommeil est le seul truc qu'il y a chez toi de profond.
C'est rigolo, tu marques un point, mais c'est grâce à ta mémoire. Cette vanne, c'est notoire, je l'ai sorti hier matin.
Ma mémoire va très loin, écoute ça, je me souviens de quand j'étais il y a longtemps dans le ventre de ma maman.
Je fais plus fort, je me souviens de quand j'étais chez mon daron. Que je me disais, putain, s'il se branle, je suis marron.
S'il avait pu deviner ce que t'allais devenir, je suis sûr qu'il aurait fait, tu serais pas là à mentir.
S'il l'avait fait, quel dommage, alors le monde aurait perdu un des plus grands personnages qu'il n'ait jamais connu.
T'es mégalo et tu péror, mais faudrait me rapetisser ou que tu grandisses encore si tu tiens à mégaler.
Tes galets, c'est des cailloux qui ne valent pas grand chose.
La seule chose c'est que je peux vous dire, c'est qu'ici sur Ramouzi, on est actuellement avec 14 chômeurs, 3 RMistes, sur une population de 245 habitants, donc vous voyez à peu près la moyenne.
Donc vous dites qu'il y a pas mal d'artisans, mais il y a peu d'entreprises qui s'installent dans la Vénois. Où on en est en milieu rural par ici, du côté des services publics?
Tout ce qui est commune de moyenne population, comme à Dourlaire, Fellery, Saint-du-Nord, qui avaient encore une poste, sont en train de les perdre. Donc ils sont en pourparlers pour essayer de trouver un système pour continuer à accueillir le public, mais je pense que la poste est en train de se décharger de ces bureaux-là. C'est en route depuis à peu près 6 mois.
Et ça serait, c'est où la suivante? C'est Avène?
Ah ben la suivante c'est Avène, ou alors après ça sera Maubeuge ou Valenciennes. Ou peut-être Lille, on ne sait donc jamais.
Cette déclaration de M. Bosquestan, elle s'est inscrite dans le débat sur la Constitution. Vous en pensez quoi de tout ça?
J'en pense que si la Constitution est faite de décrets de ce style-là, je comprends pourquoi le nom est en tête actuellement. Bah, le fait d'en avoir parlé, ça a peut-être évité, enfin moi je parle en tant que paysan, de mettre la charrue devant les bœufs. C'est-à-dire qu'on veut ouvrir tous les services au niveau de l'Europe, ce qui est tout à fait logique, ce qui est normal, ce que je comprends très bien. Mais je pense qu'avant d'ouvrir les services, il faudrait peut-être faire une harmonisation de toutes les lois sociales. Parce que là, on part avec une concurrence tout à fait déloyale.
Voilà, une harmonisation des lois sociales et une concurrence déloyale. Et oui, le maire de Ramouzi, village où Monsieur Wolkenstein a sa résidence secondaire, qui est un paysan, parle en paysan, tout simplement. Et c'est vrai que vu d'en bas, vu de là, vu d'ici, le débat télévisé, le débat dans les colonnes, des médias qui est passionnant mais devient prend un autre éclairage, un autre aspect. On parle des bureaux de poste, par exemple. On sait le nombre de bureaux de poste qui ferment en France et ce que ça constitue comme déception, comme frustration dans le tissu profond de notre pays. Un exemple à Dourlaire, c'est un village pas très loin d'où nous sommes, à pas très loin de Ramouzi. François Ruffin rencontre les usagers de la poste de Dourlaire.
Ah bah attendez, on a une usagère de la poste qui passe.
Bonjour.
Bonjour madame. Pardon, qu'est-ce que vous dites madame ?
François, je viens pour avoir de l'argent.
Et vous n'arrivez pas à avoir de l'argent ?
Bah, si vous voulez vous commander, j'arrive à 9h ce matin, c'est fermé. On ne peut pas aller à Vennes quand on a notre compte ici. Et moi, j'ai pas l'intention d'aller à Vennes non plus.
Et pourquoi vous n'avez pas l'intention d'aller à Vennes ?
Bah, après, on n'aura plus rien. Bah, c'est vrai, là, ça fait des années qu'on vient ici. Alors, si on ferme ça, c'est encore... ils peuvent au moins faire une permanence, hein ?
Oui, bien sûr.
Bon, regardez au mois de juillet l'année dernière, deux fois... Juillet août, ils ont dû rouvrir pour nous amener de l'argent. Parce qu'ils ferment pendant 2 mois. On ne nous demande pas notre avis.
Donc pendant 2 mois, vous pouvez plus aller chercher d'argent ?
Ici.
Et vous devez aller où alors dans ces cas-là ?
Bah, où on peut. Sûrement pas Dampierre, hein, je crois. Dampierre, on ne peut plus. Il y a plein d'endroits tout autour qu'on ne peut plus. Hein.
Et pourquoi Dampierre, on peut plus ?
Bah, il me semble ils ont des permanences aussi. C'est fermé aussi l'été. Saint-Hilaire, c'est fermé. Bon, ben, on ferme tout, puis c'est tout.
Ça fait combien de temps alors qu'il y a des difficultés, Monsieur Piotrowski? Vous êtes maire du village de Dourlaire, donc c'est un petit village dans la Vénois, près de Maubeuge. Ça fait combien de temps qu'il y a des difficultés avec la poste?
J'ai été élu donc en juillet 2002 et on parlait déjà de la fermeture de la poste à cette époque-là. Donc c'est une des premières choses dont on s'est occupé en arrivant au conseil en août 2002.
Il y a eu des pétitions qui ont circulé dans le village. Comment vous avez fait pour mobiliser autour de cette histoire ?
Mois de décembre, à l'occasion du marché de Noël qu'on organisait dans la salle des fêtes, on a eu l'association qui a envoyé une lettre au Père Noël.
Et qu'est-ce qu'on demandait au Père Noël alors ?
Le maintien des services publics.
Alors, quel est le lien avec l'Europe de tout ce mouvement-là ? Donc là, vous avez amené un courrier, il y a des passages, quand je vous demande quel est le lien avec l'Europe, vous avez amené un courrier, il y a des passages qui sont surlignés en orange. C'est quoi ce courrier ?
Alors, Monsieur Devedjian a répondu à notre député qui nous a communiqué la réponse. Je souhaite tout d'abord souligner l'intérêt que présente ce projet de loi en rappelant que l'ouverture des marchés postaux est maintenant réalisée dans le cadre de 2 directives européennes du 15 décembre 1997 et du 10 juin 2002.
Il dit que les décisions finalement de fermeture de poste localement sont en liaison avec des directives européennes qui datent de 1997 et 2002.
Voilà, c'est une mise en conformité par rapport aux directives européennes.
Et là vous êtes sorti avec les constitutions européennes, vous allez la lire ?
Ah mais je l'ai déjà lue, je la connais. Je vais vous dire que je vote non parce que je l'ai lue justement. Disons que moi j'avais déjà voté non à Maastricht à cause des politiques économiques qui étaient préconisées, qui étaient des politiques de rigueur. Bon, donc depuis 20 ans, on fait des politiques qui ont conduit au chômage. Il y a 20 millions de chômeurs en Europe. Donc comme ces politiques-là sont reprises dans le traité constitutionnel, donc je pense qu'il faut mettre un coup d'arrêt à ce type de politique qui verrouille quand même l'avenir.
À une humanité manifeste, un bâche est doucement tendu. Quelque part à Paris, sur la scène à minuit, quartier des brutes troqués perdus. Il y a des idées de dame, balabadam, ça joue la jabadadam, balajoman. Prolonge du loumao, chicoté, tapache, dactylo, mini pinceau. Une à une malheur improvisée, les mettait clair, si biche tendu. Délicatement se poser face à nous, nous devons tout faire. Casi Ferrero de Milagio, Scandella Pedri, Cabra Cordeon, Dante, Dante. pas de mystère à terre du Grand Nord au Gabon, de Chine à Zanzibar, des amarres. Il passe universel, étrange et la cadence. Titi, les traits d'union de Madagascar à Saint-Domingue et du Cap vers aux Antilles. Allié la tromba, le ségal, founa, l'almeringue et tissé. Paisanos américains, etc.
Ah ouais.
Bonjour monsieur. Vous avez travaillé à Usine Nord aussi alors?
85 ans, là.
Ouais. Ah ouais. Donc là, on se trouve en fait toujours à côté de, dans la région de Maubeuge. On est à Louvral, dans un ancien coron. Là, on est dans le jardin de monsieur Théo. On est dans votre jardin, monsieur.
S'il vous plaît.
On est dans votre jardin.
Dans mon jardin, oui. Et les poireaux qui poussent un petit peu là, il y a des pommes de terre qui lèvent, mais grosso modo, un petit peu de salade, mais enfin, c'est pas...
Oui, bah oui, bah c'est quand même pas si mal, quoi, voilà. Une rencontre presque au hasard dans cette région autour du village de Ramouzi, où monsieur Bolkestein vient passer se détendre dans sa résidence secondaire. Rencontre un petit peu au hasard avec des habitants, avec ce qu'ils pensent, ce qu'ils disent, leurs intentions de vote, et à la recherche des raisons pour lesquelles on va voter oui ou l'on va voter non. On suppose que c'est... Les médias nous disent que c'est à cause des médias, les intellos disent que c'est à cause des intellos, les politiques disent que c'est à cause des politiques. Mais il y a aussi des raisons simplement, disons, d'ordre sociologique, c'est-à-dire de la vie quotidienne, de nos vies, de ce qui fait qu'on va... et puis qu'on a une mémoire, quand même, comme dit cette dame rencontrée. Il y a 20 millions de chômeurs en Europe, et puis on nous avait fait des promesses en 92, lors de Maastricht, du traité de Maastricht. Donc, tout le monde ne vient pas de débarquer seulement. Il y a aussi une mémoire. Et la preuve, ces anciens sidérurgistes rencontrés dans un petit patelin qui s'appelle Louvroil, et qui avec lesquels nous bavardons et avec lesquels nous allons un petit peu dans la mémoire de cette région.
Alors, ouais, monsieur Paul, vous avez également travaillé chez Usinor?
Oui, j'ai travaillé à Usinor. Et puis, ici, en face, il y avait tous les anciennes voies ferrées qui amenaient le minerai et tout ça. Puis, tout ce qui était électrotracteur, enfin, tout ce qui était machinerie pour transporter le minerai et tout ça. Un peu plus loin, nous avions tous les ateliers mécaniques, électriques. Bon, après, il y avait la centrale, plus haut, la centrale, avec le groupe INER qui faisait le courant, qui produisait le courant pour les installations. Et puis bien sûr, vous avez derrière après les aciéries, puis après ensuite les hauts fourneaux. Et après sur la droite, vraiment le long de la Sambre, il y avait tout ce qui était stockage, minerais, coques, etc. quoi.
Et c'est devenu quoi alors tout ça?
Bon, ici, il ne reste plus que des friches, il reste encore la boule du château d'eau. Voilà. Mais sinon, il ne reste plus grand chose. Il ne reste que le vestige de la tour et puis du château d'eau, c'est tout.
Vous aviez 13 ans quand vous êtes rentré?
Oui, 13 ans. Pile, j'ai rentré en 19 de mars et je suis né en 1921.
Et vous avez quitté l'entreprise quand?
Ah, j'étais éjecté, si on veut. Pas éjecté, mais après retraite, si on veut.
Et comment ça s'est terminé pour vous, alors?
Ben, moi, disons que quand j'ai été muté en bas à la fermeture de haut, et bon, peut-être un an avant, bon, je sais que on devait liquider tout l'usine. Donc moi j'ai cherché, puis j'ai trouvé, je me suis rentré à Fruyoff, à Tilleul, anciennement Tilleul.
C'était quoi?
Ah ben là on faisait, c'était tout autre chose, c'était des camions et des conteneurs, ouais, Titan Coder, ouais.
Et c'est devenu quoi alors cette entreprise?
Bah là disons que ça a été liquidé aussi, et puis donc ça a été transféré Fruyoff à Fénil, tout près de Louvral, quoi. Et ça, ouais, Société Française des Conteneurs, et ça a duré, bon, 10 ans, pile, pas plus.
Et ensuite?
Ben après, bon, j'étais au chômage pendant un an et j'ai trouvé une place de gardiennage. J'ai travaillé pour Jomon Schneider comme garde à Jomon Schneider.
Là, il y a une constitution, il y a un vote sur la constitution qui se déroule dans 15 jours.
Moi, de toute façon, je voterai non, ça, je suis certain. Parce que, bon, je vois que tous les avantages sociaux, tout ça, tout disparaît. On a beau faire du cinéma, j'ai encore entendu une conversation, disons que il y a un livreur qui était venu apporter une machine à café, et il disait que son patron, il avait dit comme ça, tu sais, si je peux avoir un Polonais pour travailler, bon, comme c'est moins cher, ben toi, ben, il faut t'attendre à être licencié, quoi. Alors, je dis, c'est quand même des trucs, si c'est ça l'Europe, chapeau, hein.
C'est-à-dire, le patron avait dit à son ouvrier, si je vais chercher un Polonais, si jamais...
Ouais, s'il trouvait un Polonais, ben donc, c'est la main-d'œuvre moins chère, ben bon, il avait fait comprendre que, ben, pour lui, ben ce serait la fin de son travail, quoi.
Pour livrer les machines à café, hein.
Machines à café ou machin à vaisselle, quoi, pour le café, quoi. Bon, moi, je dis que si le patron, il a dit ça à son ouvrier, je dis que chapeau, parce que lui, il a pas le moral, hein. Il faut se mettre à sa place, hein, ça, c'est normal. Hein.
Petite balade, petit carnet de route dans la France profonde, saisie par l'effervescence démocratique et le grand débat sur le référendum. Et là, on arrive dans un petit village qui s'appelle Balieu, à côté de Ramouzy, où nous rencontrons Vincent Leclerc, qui dirige une entreprise de transport routier.
À côté de Ramouzy, où se trouve la maison de Monsieur Bolkestein. Je suis passé devant la route, il y a une entreprise de transport qui s'appelle le TLW.
C'est du transport exceptionnel chez nous, donc ça va du véhicule deux essieux surbaissés jusqu'à des plateaux télescopiques de 40 mètres de long.
D'accord, et alors comment ça se passe économiquement pour l'instant dans cette...
Certaines sociétés de transport vont chercher des chauffeurs dans les pays de l'Est à des prix... Par exemple, j'ai un article aujourd'hui dans l'Officiel où un cabinet conseil... en Pologne, vous propose des conducteurs à 210 euros par mois.
Comment s'appelle le journal
L'Officiel des transporteurs. L'Officiel des transporteurs, où dans les offres de service, un cabinet polonais vous propose de créer une filiale ou de travailler, je ne sais trop comment pour le moment, avec des conducteurs des pays de l'Est, SMIC, 210 euros par mois.
Et après, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent l'impôt sur les sociétés est de 19%.
Voilà, l'impôt sur les sociétés est de 19%. Et ils nous proposent le service complet en français avec cabinet de conseil juridique, conseil en fiscalité, comptabilité, service de notaire pour créer une filiale en Pologne.
Le SMIC est de 210 euros par mois, l'a proposé. Vous, vos employés sont payés combien, monsieur Leclerc?
Aujourd'hui, un conducteur français, ça nous coûte 2500 euros par mois.
2500 euros contre oui. 210 euros, donc c'est 10 fois moins cher.
10 fois moins cher, oui.
Alors dans ces conditions-là, est-ce que vous vous interrogez pas sur le fait d'embaucher des Polonais?
Pourquoi pas demain délocaliser nos sociétés dans les pays de l'Est?
Et ça, c'est quelque chose que vous pourriez envisager?
Si aujourd'hui l'État français ne prend pas la décision de sauver les entreprises françaises, on sera bien obligé d'y passer.
Donc là, vous allez téléphoner ou pas?
Pour le moment, non, mais j'envisage très prochainement d'aller faire un tour en Pologne pour voir un peu comment ça se passe.
Pour éventuellement préparer l'avenir.
Pour préparer l'avenir, oui, exactement.
Là, il y a déjà eu des conséquences dans la région. Il y a des transporteurs qui ont eu des licenciements ou qui ont dû fermer.
Écoutez, actuellement, j'ai embauché récemment des conducteurs qui n'étaient pas spécialement de la région de l'Avenois ici. Mais vendredi dernier, j'ai embauché trois conducteurs qui m'ont tous dit qu'ils avaient été licenciés parce que leur patron embauchait à la place des Polonais. On peut supposer 50% de la disparition des transporteurs routiers français. C'est-à-dire des milliers d'emplois.
Monsieur Bolkestein habite à quoi, une dizaine de kilomètres à peine d'ici. Vous avez entendu sa déclaration sur les plombiers?
Oui, il voulait faire venir des plombiers des pays de l'Est. Alors, est-ce que c'est parce qu'il n'a pas les moyens de payer un plombier français ou il se trie que c'est bien, après tout, d'un plombier va venir des pays de l'Est travailler pour un tiers du prix des plombiers français?
Vous avez des problèmes avec votre plombier?
Moi, j'ai aucun problème. Mon plombier, je l'appelle, il vient tout de suite.
Finalement, la loi que voulait mettre en place Bolkestein, c'est déjà une loi qui est partiellement, qui est déjà appliquée quasiment dans le domaine des transports, en tout cas sur le transport international.
Actuellement, sur le transport international, bien sûr, cette loi est utilisée. Et aujourd'hui, je vous disais ce que vous disiez tout à l'heure, on trouve des chauffeurs routiers. Mais ça va devenir des clocheurs de la route. Aujourd'hui, nous, on les voit sur les parkings. Ils passent leur week-end sur le bord de la route, ils ont leur gamelle dans le camion. Ils vivent comme nos conducteurs pouvaient vivre il y a 25 ans. C'est un retour en arrière social.
C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de progrès social pour les transporteurs, pour les camionneurs depuis 25 ans?
Oui, il y a eu beaucoup de progrès social quand même. Le conducteur routier français aujourd'hui, il a des conditions sociales qui sont à des années-lumière de ce qui se passe aujourd'hui avec les gens qu'on voit des nouveaux pays européens. Il faut se battre pour qu'on ne tire pas le social vers le bas, mais vers le haut. Donc il faut aujourd'hui faire des lois européennes qui mettent tout le monde sur un pied d'égalité.
Enfin, il y a bientôt un vote sur la Constitution européenne. Enfin, je ne sais pas, est-ce que vous avez un avis sur cette Constitution?
Bah, je pense que l'Europe ne sera pas sans constitution. Maintenant, il faut que nos politiques changent leur façon d'agir s'ils veulent pas... Aujourd'hui, c'est la panique en France. Hein. Que ça soit le monde du transport ou le monde de l'industrie, aujourd'hui, les gens se rendent compte que les nouveaux entrants dans l'Europe sont en train de manger tout.
Et donc, vous savez ce que vous allez voter ?
Ah, moi, je sais ce que je vais voter. Moi, je suis pour la Constitution européenne et je pense qu'on pourra pas faire l'Europe sans une bonne Constitution.
Et vous pensez qu'elle est bonne, cette Constitution ?
Bah, c'est difficile à comprendre tous les textes de la Constitution, mais je pense que, de toute façon, il en faut une.
Alors voilà, on a gardé la petite annonce que ce transporteur nous a mis sous le nez avec François Ruffin. Offre de service, transférez votre activité économique en Pologne ou ouvrez une filiale. L'impôt sur les sociétés, 19%, SMIC 210 euros par mois. On vous propose le service complet en français, cabinet de conseil juridique, conseil en fiscalité, comptabilité... Et service de notaire suivent des numéros de téléphone en Pologne. Alors nous, notre souci, vous le connaissez, à la base des Suisses, évidemment, nous sommes un radio de service public et nous soutenons tout le monde, tous les Françaises et tous les Français, et notamment, évidemment, l'économie française qui doit rester compétitive. Appel.
Allô?
Allô, excusez-moi, do you speak French?
Yes, I do speak French.
J'appelle de France.
Oui.
Parce que il y a eu une annonce dans un journal français.
Dans l'officiel des transporteurs?
Exactement, avec votre numéro de téléphone, en fait. Hein.
Oui, voilà. Donc, nous sommes une société polonaise. On a élaboré une offre destinée aux entrepreneurs français du transport international. Donc, je crois que vous l'avez vu.
Oui, tout à fait. Bah, moi, je suis pas directeur de l'entreprise. C'est Monsieur Mermet, le directeur de et l'entreprise. C'est
oui.
Là-bas, si j'y suis, on dit LBS JS. LBS JS. JS Express. C'est une petite boîte. Hein, c'est pas une grande entreprise.
Mm-hmm.
Alors, on fait à la fois, si vous voulez, un peu d'international. Bon, c'est surtout lui qui fait personnellement l'international, si vous voulez, c'est un peu sa passion. Dernièrement, il est allé en Sibérie pour chercher des peaux de rennes. Enfin, c'est quelqu'un qui aime beaucoup ça, mais si vous voulez, d'un côté, ces grands voyages-là, ça finit par coûter à l'entreprise, et on aurait besoin, si vous voulez, de réduire les coûts, quoi.
Oui, je comprends très bien. Donc voilà, d'abord, voilà, vous avez bien tombé, donc c'est mon numéro de téléphone. Et je crois que voilà, vous m'appelez pour se renseigner un petit peu sur ça, sur nos offres, de quoi s'agit-il, c'est ça?
Bah exactement, parce que là, si vous voulez, il y a déjà eu deux licenciements dans l'entreprise. On est un peu en perte de vitesse et on se demande comment, si vous voulez, conserver un peu des parts de marché, on va dire.
Donc en fait, l'objet de notre offre, c'est une ouverture d'une filiale en Pologne. Et dans cette société, vous allez embaucher des chauffeurs polonais, puisque votre chauffeur est français, si vous souhaitez. Un avantage de cette situation est que, tout d'abord, la rémunération des chauffeurs polonais qui travaillent pour vous, car le temps moyen de rémunération des chauffeurs s'élève à 1125 euros par mois, avec toutes les charges comprises. Voilà, ça, c'est assez avantageux. Ensuite,
dans l'annonce oui. vous indiquiez SMIC 210 euros par mois.
Mais pour le chauffeur ou en
oui.
général?
C'était marqué transférer votre activité économique en Pologne
ou
ouvrir
une
filiale. Alors l'impôt sur les sociétés 19%, en France c'est 33%. Donc là,
ça c'est la fiscalité. Donc si vous êtes implanté, si vous avez cette filiale en Pologne, vous serez bon taxé, vous payez les impôts en Pologne qui s'élèvent à 19%. Ce sont les impôts sur les bénéfices des sociétés. Et si vous êtes un gérant d'une société en Pologne, votre rémunération, aussi vous payez des impôts de cette rémunération en Pologne, même si vous avez vous habitez en France.
Et donc ce moment-là, ça permet de payer. Bon, c'est pas pour moi, c'est pour Monsieur Mermet, pour Monsieur.
Oui, mais je vous comprends. Donc, dans ce cas, voilà, il va payer des impôts en Pologne, une Pologne qui s'élève à 19%. On peut faire ça.
Et donc là, même le transport national français pourrait être moins taxé en un sens.
Il y a une option que si vous remplissez certaines conditions, que vous payez uniquement ce 19% en Pologne.
Et alors, pour concernant, ça c'est pour le côté fiscal, concernant le côté social, là vous indiquez donc un SMIC à 210 euros par mois.
Non, non, non. Attendez, le SMIC, ça c'est le SMIC général. Mais pour le chauffeur, pour le chauffeur, le SMIC est plus élevé un petit peu que 200, bon, 5 euros, quelque chose comme ça par mois. En général, le salaire moyen de chauffeur en Pologne s'élève à 1125 euros par mois avec les charges sociales comprises.
D'accord. Oui. C'est deux à trois fois moins qu'en France à peu près.
Je crois qu'en France, c'est que mes clients m'ont déjà dit, c'est environ 2700 ou quelque chose comme ça.
Oui, c'est ça, oui, c'est ça.
C'est ça.
Alors, sur ces
1125 euros, ça c'est le temps moyen.
D'accord. Mais, alors, là-dessus, il y a pas de frais de restauration, comment ça se passe?
Ici, bon, le chauffeur polonais, alors le chauffeur moyen polonais ne demande pas bon, d'aller manger dans un hôtel.
Il se restaure, c'est un casse-croûte, comment?
Parce que voilà, normalement d'habitude, ce qu'on fait une société polonaise du transport, vous savez, c'est 1125 euros. Donc, dans le contrat, c'est indiqué que ce chauffeur par mois, il reçoit ces 205 euros. Ensuite, les employeurs ajoutent, parce que ça c'est le prix net, donc ils ajoutent les charges, ce qui donne un peu plus de, je sais pas, environ 250 euros, et plus, ce chauffeur polonais va recevoir des indemnités vers chaque mois, et ça c'est ensemble dans un prix de 1125 euros.
D'accord. Les indemnités, ça permet de payer moins de charges en fait.
Voilà. D'accord. Voilà, c'est ça.
Donc on paye plus en indemnité qu'en salaire de manière à payer moins de charges sociales.
Ouais. D'accord. Tout à fait.
Moi, souvent, je livre de la plomberie sur Maubeuge, si vous voulez. Donc c'est dans le nord de la France. Non. Je veux dire, il y a une partie de notre activité.
Oui. Mais Maubeuge est en France.
Oui. Donc c'est pas possible.
Oui, bon.
Parce que le problème, c'est qu'on a deux activités différentes. La chose qu'on a de mieux à faire, c'est de tout ce que faisait Monsieur Mermet, c'est-à-dire quand il allait en Israël, quand il allait en Sibérie, quand il allait au Venezuela,
quand il allait
au Rwanda aussi, tout cet aspect-là, on sépare la société en deux. Tout cet aspect-là, c'est la filiale LBSJS Express International et on garde LBSJS Express National en France, quoi. C'est ce qu'on aurait mieux à faire. C'est une scission la société avec une filiale, quoi.
Ça c'est possible. Mais cette ville, bon, Paris et d'autres villes que vous m'avez dit, comment s'appelle?
Maubeuge.
Maubeuge, voilà. Donc c'est loin d'une frontière allemande, Belgique ou je sais pas d'autres.
C'est juste à côté de la Belgique.
Parce que bon, ça c'est bon, c'est pas tout à fait bon légal conformément à la loi, mais il y a des sociétés de transport qui conforment une chose telle que vous avez une ville en France qui est à côté de la frontière.
C'est juste donc, à côté.
Oui, donc ils vont en Belgique, ensuite avec les marchandises, de Paris, Belgique, ils entrent le territoire de la Belgique, ensuite ils rentrent pour cette ville pour laisser des marchandises, vous voyez?
Ah, ils ressortent en Belgique, comme ça devient du transport international.
Voilà.
Ils rentrent en Belgique, ils reviennent à Maubeuge, c'est du transport international, et comme ça c'est autorisé alors.
Oui, c'est autorisé, mais les douanes, il y a les contrôles à la douane, donc ils peuvent dire après 100 fois de démarches comme ça, ils peuvent dire « Oh là là, ça c'est interdit ».
Ah mais ça c'est intéressant, effectivement. Alors là, pour les livraisons de plomberie à Maubeuge, on pourrait très bien faire un petit détour par la Belgique, et à ce moment-là, c'est un chauffeur de n'importe quelle nationalité pourrait le faire, quoi.
Ah oui, mais ça dépend de vous. Ça, c'est juste une idée que je vous ai donnée.
D'accord. Bah écoutez, je vous remercie beaucoup. Je crois que vous m'avez donné des bonnes idées. Là, je crois qu'on va avoir une collaboration fructueuse, vous voyez.
D'accord. Donc, je vous souhaite bonne journée.
Je m'excuse si j'ai été un peu long. C'est vrai que, vous savez, c'est le problème des PME. Hein. Bon, LBSJS Express, c'est une petite PME. On n'a pas de spécialiste en conseil juridique, en fiscalité. Vous comprenez un peu ce que je veux dire. Merci.
J'attends votre question.
D'accord. Bah, écoutez, je vous remercie beaucoup, madame. Au revoir et bonne journée.
Sata sata
Buka 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 bi
Sata sata
Buka buka biaba
Sata sata
Buka 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 bi
Sata sata
Buka buka biaba
Je m'appelle sans pareil et je te le dis, c'est moi qui lève et couche le soleil, qui fait et défait les rois.
Moi je m'appelle Jésus Sicre et je circule en tout lieu. Ma maman c'était Marie, mon papa c'est le bon Dieu.
Je suis le début du monde et je vivrai jusqu'à sa fin. Je couche avec la Joconde, je suis pote avec Jospin.
Si tu mets pas de capote quand tu couches avec Jospin, au moins garde la culotte, il pourra pas aller très loin.
Dès le début t'attaques bas, ce que tu dis n'est pas très beau. Heureusement que je suis là pour relever le niveau.
Je suis pas garde-barrière pour les passages à niveau. Je suis qu'un simple trouvère qui s'amuse avec les mots.
Tes jeux de mots sont sans succès, la forme sans le fond. Le sommeil est le seul truc qu'il y a chez toi de profond.
C'est rigolo, tu marques un point, mais c'est grâce à ta mémoire. Cette vanne, c'est notoire, je l'ai sorti hier matin.
Ma mémoire va très loin, écoute ça, je me souviens de quand j'étais il y a longtemps dans le ventre de ma maman.
Je fais plus fort, je me souviens de quand j'étais chez mon daron. Que je me disais, putain, s'il se branle, je suis marron.
S'il avait pu deviner ce que t'allais devenir, je suis sûr qu'il aurait fait, tu serais pas là à mentir.
S'il l'avait fait, quel dommage, alors le monde aurait perdu un des plus grands personnages qu'il n'ait jamais connu.
T'es mégalo et tu perrors, mais faudrait me rapetisser ou que tu grandisses encore si tu tiens à mégaler.
Tes galets, c'est des cailloux qui ne valent pas grand chose. Moi, chaque monde m'apprend, c'est en toi un vrai bijou.
Cailloux, bijoux et bouge nous, tu peux en faire tes joujoux, mais ne me cherche pas des poux ou je t'envoie dans les choux.
Fais gaffe à toi, je vais, tu ne racontes que d'essais. Je vais te monter le déo des beautés à coups de paix.
Ne me parle pas d'épée, je suis la plus fine lame conceptuelle, maître romane qu'il y ait dans le quartier.
Maître romane, Kesako, je connais les pétomanes, pyromanes, mythomanes, mélomanes, cardumanes, opiomanes, automanes, nymphomanes, kleptomanes, dodomanes, boulomanes, palémanes du métro.
Nous a fait pas tout un plat, si tu comprends pas mes mots, va voir la rousse qui est là, qu'elle te prête son dico.
Nous sommes ici devant des gens cultivés et intelligents, ne nous sors pas des jeux de mots tirés de l'almanach Vermont.
À propos de moi en vert, je peux t'en faire en verlan, borin, j'ai lu à l'envers dans ma tessie adolescente.
L'esprit ça ne t'a pas ouvert, mais il vaut mieux, ça va de soi, lire Rimbaud, même à l'envers, que borin gère à l'endroit.
Je veux bien croiser le fer à l'envers ou à l'endroit je suis d'enfer, à l'envers super à droit.
Du droit je ne suis pas gauche et du gauche pas maladroit. D'un crochet je te fous, moi j'ai d'un revers, je te fous droit.
Sacré roi de l'héristique sur l'authentique pataque, à tous les assauts critiques, je réponds du tac au tac, mes attaques sont caustiques, tactiques et pleines de tac.
Tu fais tic-tac sans arrêt, on dirait une pendule. Arrête un peu ton bidule et dis-nous quelle heure il est.
Il est minuit, docteur Schaeffer, l'heure de ta fin approche, je vais te sonner les cloches, t'auras besoin d'Alka-Seltzer.
Tu n'as rien que de la bouche, d'un mot je peux te moucher. À la fin de la voix je touche et je t'envoie te coucher.
Ne fais pas ton Cyrano, tu t'escrimerais en vain. Tes vers c'est du mécano, Rostand était écrivain.
Cyrano, mécano, toi aussi tu m'irritonnes. Moi quand je veux je t'étonne, je suis savant comme personne. Si tu veux ici j'entonne, arma ou roupe cano.
Toi qui es aussi savant, tu vas nous dire comment. On peut dire en latin, trop de science rend crétin.
N'essaye pas de me flatter, avec moi ça ne marche pas. Et n'oublie pas de respecter les règles de l'humour courtois.
Les duels humoristiques sont faits pour sauver la paix, en mettant en dialectique toute l'agressivité. C'est pourquoi quand je te pique, ne te sens pas insulté.
Faut cadrer la polémique tout en la faisant progresser. C'est pourquoi je te réplique, pas besoin de t'excuser.
Je m'excuse pas, j'explique que les joutes poétiques sont les guerres platoniques, kératiques, cathartiques. Les violences politiques, ethniques ou domestiques, en les portant sur le ludique, l'artistique, le civique, c'est de la santé publique le véritable secret.
Cette série de mots aniques que tu me jettes en longoré, moi ça me rend mélancolique, j'en aurai la diarrhée.
Tu fais toujours le mariole, t'es vantard mais pas malin, sur toi le premier rôle si on rejoue Tartarin.
Tu m'as traité de Cyrano.
Et ça continue comme ça pendant 7 minutes, les fabuleux troubadours qui se dépassent. Merci à tous, c'était un reportage de François Ruffin aujourd'hui. Merci à monsieur Carpentier, la famille Sauveau, madame Leroy, monsieur Piotrowski, Alain Groan, Edmond Vanik, Théo, Paul, Tony, monsieur Leclerc et la juriste de la société polonaise. À lire et surtout à regarder un livre magnifique de Solange Brandt, qui s'est longtemps occupé de la mise en page du mensuel Le Monde Diplomatique, un livre formidable qui s'appelle Pékin 1966, petites histoires de la révolution culturelle, ce sont des photos qu'elle a prises à l'époque. On reviendra, j'évoquerai à nouveau ce bouquin dans les prochaines émissions. Et je vous rappelle surtout le grand événement de la semaine en attendant la catastrophe de dimanche soir. C'est demain à 20h au théâtre de Jazet à Paris, 41 boulevard du Temple, au métro République, le procès de Nicolas Sarkozy avec là-bas si j'y suis, avec des dessinateurs, avec toute une bande de joyeux de riz, pas que joyeux d'ailleurs. On fera le procès de Nicolas Sarkozy. Le numéro du théâtre de Jazet, c'est le 01 48 87 52 55, si vous voulez retenir 01 48 87 52 55 pour réserver. C'est au 41 boulevard du Temple dans le 3e arrondissement et ce sera à partir de 20h. Technique aujourd'hui, Antoine Viossa et Michel Thomas. L'équipe de la basse, si j'y suis, c'est Antoine Chao, Yann Chouquet, Pascal Pascariello et Christophe Imbert. Le numéro du répondeur de la basse, si j'y suis, c'est le 01 de l'LBSJS Express. C'est le 01 56 40 37 37. Le mail daniel.mermet@radiofrance.com. Toutes ces informations sont disponibles sur le site de France Inter à la rubrique émission Là-bas si j'y suis. On se retrouve demain à 17h pour une nouvelle aventure. Après 1 minute et 45 secondes de pub, vous retrouvez Frédéric Bonneau pour Charivari. Salut!